soyez les bienvenus avec Léna Kadobudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Guillermo.
Bravo Guillermo.
Tanguy Bastureau sera là tout à l'heure. En live, il y aura Sophie Hunger pour Titsi et notre invité Monsieur Roche Dizem.
Bravo.
Bienvenue Roche, tout va bien?
Ouais, très bien, merci.
Ravi de vous accueillir pour parler d'un film touchant que nous avons vu, qui s'appelle Ma fille, de Naïdra Ayedi, j'espère que je prononce bien, qui sortira ce mercredi, et qui s'appelle Ma fille, et vous êtes le papa de cette fille. On va évoquer ce film, ce road movie pratiquement du père qui veut retrouver sa fille, de la sortir de la mouise dans laquelle elle a pu se mettre, et il sait pas trop d'ailleurs dans quelle mouise elle a pu être.
Je sais pas si elle est dans la mouise du tout.
Ouais. Mais en tout cas, c'est un road movie. C'est un road daddy.
Enfin, non, pas vraiment en fait. Je dis oui pour te faire plaisir, mais tout se passe dans Paris.
Ouais,
un road movie,
c'est
sur la route.
Il déambule dans Paris. Il la cherche. Il la cherche dans différents lieux.
C'est dans cette violence.
Et pardon, tous les quartiers parisiens sont chaque fois comme différentes villes du monde.
Comme différentes villes du monde.
Ok. Les quartiers parisiens, c'est comme si on allait de ville en ville.
Oui, oui. En fait, c'est un Paris. En fait, le personnage lui est très terrien. Donc, en fait, c'est un Paris plutôt superficiel auquel il va être confronté, puisque c'est le monde de la nuit. Très vite, il va s'apercevoir, sans spoiler le film, que sa fille n'est pas coiffeuse et qui.
Ce qu'elle lui a fait croire. En fait, parce qu'elle ne vient pas fêter.
Elle ne vient pas depuis deux ans. Ils vont fêter Noël. Il vit dans le Jura. Ça, c'est la bonne idée de Naïdra, c'est d'avoir situé cette famille dans un milieu assez rural. Et ils sont sans nouvelles d'elle et ils décident de partir à sa recherche et de découvrir qu'effectivement, elle n'a pas fait d'école de coiffure, elle ne travaille pas chez un coiffeur. Et de fil en aiguille, dans son parcours, il va découvrir qu'elle fréquente plutôt le milieu de la nuit et voire le milieu de la prostitution.
On en parle dans quelques instants, mais d'abord, voyons si autour de cette table, vous connaissez bien Roche Dizem. Roche Dizem, tu ne fais que infirmer ou confirmer quand les réponses se sont données, c'est parti. Pour quelle raison Roche Dizem revient-il régulièrement dans son quartier d'enfance à Drancy?
Il doit de l'argent, pas des gens.
J'y étais dimanche.
C'est vrai.
Pour se battre.
Il a de la famille.
Il a des copains.
Ouais, chez le coiffeur.
Exactement.
Incroyable.
Mais comment tu sais ça?
Moi, quand il y a une question capillaire,
je suis toujours le premier à saisir du dossier.
Et donc c'est vrai.
Oui, ouais, c'est vrai.
Mais il est bien coiffeur.
Mais parce qu'en fait, c'est le coiffeur du quartier.
Ouais.
Et Rabat, pour ne pas le citer. Et j'y vais depuis que je suis gamin et c'est quelque chose que j'ai gardé. Ça me permet de revoir les gars du quartier.
Mais pardon, c'est pas non plus une espèce de superstition en termes de coiffure, style non. Un autre coiffeur pourrait mal vous coiffer ou sur un tournage. Alors, en fait, comment quand vous êtes sur un tournage, il y a bien.
Je vais chez mon coiffeur.
Ah d'accord. C'est pas le coiffeur du film qui.
Non, 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 surtout pas. Parce que les coiffeurs de cinéma, ils vont m'en vouloir. Ils sont là pour coiffer.
D'accord.
Donc si tu veux un brushing, une mini vague, il y a pas de problème.
Une mini vague. Pardon.
Vous avez eu des mini vagues.
On est hyper pointus.
Faut faire gaffe, ça fait des traces.
Avec la petite peut-être.
Mais
les
cheveux
coupés, surtout les cheveux frisés. Je préfère aller dans mon quartier.
Ouais, d'accord. Question sur à nouveau sur Roche Dizem.
Là, c'est l'invité.
Malgré son jeune âge.
Ouais, qui a 50 ans.
À peine. Qu'est-ce que Roche Dizem ne sait toujours pas faire?
Nager.
Oui.
La mini-vague.
Mais là, vous voulez même pas prendre des cours quand même, Roche Dizem, c'est pas possible.
J'ai pris des cours, mais c'est encore plus pâté.
Nagui possède 4 piscines. Et... soit utilisé. Non mais attends, quand vous aviez tourné dans le Raid, il y avait des scènes d'eau et tout, non?
Ouais, mais j'allais pas dans l'eau.
D'accord.
Au-dessus.
Okay. Et Roche Dizem marche sur l'eau.
Mais pas...
C'est pour ça qu'il coûte si cher.
Ou alors avec une bouée.
Roche Dizem est quelqu'un de très poli, de très élégant. Mais dans quel endroit perd-il son langage châtié? Il y a un contexte.
Chez Rabat, son coiffeur?
Non.
Au stade.
Exactement. Au foot, tout. Là, vous partez en vrille.
Je parle mal.
On l'aveu. Je parle très mal.
C'est-à-dire que.
Parce qu'en fait,
que ce soit l'arbitre ou.
Surtout l'arbitre, malheureusement. Mais je suis dans une tribune, la même depuis 25 ans. Et c'est une tribune très populaire. Et voilà, c'est mon exutoire.
C'est au PSG?
Comment?
Au PSG?
Au PSG, oui, bien sûr. Pas en dernier.
Non, mais
Non, c'est direct des attaques, ça pourrait être un truc de votre quartier ou quoi.
Guillermo, dès qu'un Belge pose une question à un Français sur le football, c'est une agression. Laisse tomber.
Les Belges, ils ont le seum.
Son père lui avait interdit et évidemment, il s'est empressé de le faire. Qu'a-t-il fait ? Interdit par son père et il l'a fait quand même.
Pris de la drogue ?
Non.
Conduire une moto.
Pas conduire une moto, non.
Avoir le permis moto.
Se faire tatouer les fesses.
Se faire tatouer. Les fesses.
Non, pas les fesses.
On n'a pas la zone, mais Daniel est bien.
Moi, j'ai bossé.
Tatouage. Et vous avez dit dans une interview boucle d'oreille, mais là, vous l'avez pas la boucle d'oreille.
Non. À l'époque, ouais. Mais à l'époque, on faisait la boucle d'oreille avec un clou.
À l'époque, c'était il y a 3 semaines, hein, donc c'est incroyable.
C'était il y a très longtemps, j'avais 17-18 ans. Il m'avait dit pas de boucle d'oreille, pas de tatouage. Je sais pas pourquoi, du coup, je me suis fait tatouer et.
Parce qu'il vous l'avait interdit, non ? Si vous avez dit t'as le droit.
J'aime bien le contrarier.
C'est un truc vraiment uniquement de rébellion ou c'est des potes qui vous ont dit si tu veux faire partie de la bande, faut que tu sois tatoué comme nous ?
Non, parce que bon. Encore la boucle d'oreille à l'époque, c'était quand même à la mode, mais le tatouage, c'était pas du tout à la mode. Hein. Ça faisait vraiment, c'était vraiment un truc de tolard, ou alors.
C'était que les voyous.
Il y avait pas ce truc aujourd'hui qui est complètement rentré dans
la mode. Ouais. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. Si on n'a pas un tatouage, on est ringard.
C'est ça.
Non, c'est le contraire.
Ne pas en avoir.
Je suis hyper tendance, moi.
Ouais.
Aucun tatouage.
Tout le monde
mais beaucoup de gens
tellement j'ai tatoué Nagui que.
Ben non, mais je suis pas tatoué.
Si, t'es tatoué.
Si, je suis tatoué où ?
Oh, du doigt. On dirait une vraie caravane.
Il a marqué 90.
On peut savoir quel est l'objet du tatouage. Ce sont des initiales.
Non, pas du tout. À l'époque, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde, même quand je serai plus âgé. Donc aujourd'hui.
Ouais. Et c'est le cas. Et sans savoir ce que c'est le cas, ça vous correspond encore aujourd'hui ?
Oui.
D'accord.
Bah oui, c'est mon signe chinois en fait.
Ouais, très bien. Ouais, donc pas de risque.
À vie, je serais serpent.
Voilà, pas de risque, très bien. Puisque c'était l'interdiction de votre papa, justement, on va en parler de ce rôle de père que vous avez. Le film s'appelle Ma fille, mais c'est vrai que la malice d'appeler le film comme ça, on a immédiatement le cercle familial au complet qui est concerné. C'est pas une fille, c'est pas la fille, c'est pas un prénom, c'est bien ma fille. Donc là, on sent bien que c'est d'abord le lien familial qui est quelque chose d'important. Oui. Tout par-delà. Là, on l'a dit, une fête de famille, une fête de fin d'année, en l'occurrence c'est Noël, négligée par une jeune fille qui, malgré l'ère des réseaux sociaux, des SMS et de la communication, rompt toute communication avec sa mère et son père. Et là, inquiétude du père avec...
Mais c'est surtout inquiétude de la mère. C'est la mère qui est au bout du rouleau.
Ouais, et c'est le père pour rassurer la mère qui dit, eh ben, tu sais quoi, moi je vais aller la chercher.
Oui. Et en fait, par rapport... Alors, juste pour rappeler, c'est tiré d'un livre de Clavel qui s'appelait Le Voyage du Père,
qui avait fait l'objet d'un film... Prenez le prisme du père. Prenez l'angle.
Absolument, le prisme du père, c'est pour ça que j'en parlais. Il y avait eu un film aussi qui avait déjà été fait avec Fernandel dans les années 60. Et la différence aujourd'hui que l'idée de Nedra Ayadi, la réalisatrice, c'est d'accompagner ce père par la cadette des filles. Ouais. Et en fait, quand le film s'appelle Ma fille, mais en fait, de quelle fille on parle ?
Exact. Ouais.
Celle qu'on cherche ou celle qui l'accompagne ? Et dans son parcours initiatique, à vouloir chercher la plus grande, il est en train de perdre la plus jeune qui est à ses côtés. Donc il y a comme ça une forme de...
Mais c'est vrai que tout l'angle, une forme de... Oui, pardon.
Non, mais c'est bien que tu m'aies coupé parce que je cherchais le mot.
Il y a beaucoup de gens qui disent dichotomie.
Non, c'est pas dichotomie que je cherchais.
Beaucoup de gens le disent.
Oui, mais parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Non, c'est vrai que la force, c'est tout le rapport et les valeurs d'éducation et de transmission qu'il y a entre lui et la fille cadette et ce qu'il aurait pu louper avec la grande aussi ou ce qu'il est en train de louper avec la petite.
C'est-à-dire surtout, que c'est il fait partie de cette génération de parents qui ont eu un parcours difficile pour s'installer en France. Et qui, dans la transmission et dans la filiation, ont eu une certaine pudeur qui fait que la communication a été difficile. Et de ce fait, pour les enfants, ça a été compliqué de couper le lien, le cordon. Et c'est souvent fait de façon assez violente. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, dans le film. Et c'est ça qu'il va tenter de rattraper aussi dans sa quête.
Ouais, c'est l'histoire de l'immigration, en fait. Une partie de l'immigration qui est contée et l'histoire de deux générations. Finalement, le père veut le meilleur pour ses filles. Il les élève de façon très, très ouverte pour qu'elles fassent des études, qu'elles voient le monde et qu'elles avancent. Et finalement, ce qu'elles veulent, elles, ou en tout cas l'une d'entre elles, c'est réussir, mais peut-être un peu vite, en fait. C'est aussi ça.
C'est toujours le problème de... Donc de la dichotomie entre ce que les parents veulent pour leurs enfants, et on est bien placé pour le savoir, parce que je pense pas que nos parents nous imaginaient pas faire de la radio ou du cinéma. Ils nous voyaient plutôt en
prison, etc. Non, ouais,
faire des études, avoir des diplômes qui nous protègent.
Un métier stable.
Voilà, c'est ça.
Et en ce qui concerne nos envies, nos passions, elles vont souvent à l'encontre de ce qu'ils avaient pu imaginer. Et donc, pour obtenir cette liberté, là, finalement, de pouvoir s'épanouir, ça passe par un rapport conflictuel, et puis c'est une émancipation également. Et pour obtenir sa liberté, il faut souvent passer à travers ces obstacles-là.
Et alors, l'absence de communication et d'information laisse évidemment planer cette inquiétude de « ma fille est en danger ». Ouais. Et il n'y a rien qui peut rendre plus dingue un papa que de se dire « l'un de mes enfants est en danger et je ne suis pas là pour la protéger ».
Oui, et puis là, il y a l'instinct animal qui ressurgit, évidemment. Et c'est le thème du film. C'est ce qu'il a de plus cher, susceptible d'être en danger. Et cette protection qu'il n'a eu de cesse de donner pendant toute son éducation, va se transformer là en urgence. Et c'est ce qui va le rendre vulnérable et désemparé.
C'est ce qui rend votre personnage aussi très attachant, parce que vous êtes ce grand bonhomme, ce père de famille, on vous voit dans le cadre du travail, quelqu'un de très responsable, quelqu'un d'assez taiseux aussi au sein du cercle familial. Et tout d'un coup, vous voir propulsé dans ce Paris de la nuit, dans ce Paris de la prostitution aussi. Tout d'un coup, je trouve que le contraste était très très beau. Vous, cette grande carcasse avec ce visage émacié, il y a une forme de dureté et on découvre tout d'un coup l'expression de l'amour du père.
Mais c'est ce qui m'a intéressé.
Et de retenue aussi.
Ouais, c'est très beau ça.
D'abord, il est tout en retenue. C'est effectivement, vous avez raison, c'est un asset assez taiseux et complètement rendu fragile par la situation. Ouais. Et c'est le genre de personnage qui m'a été rarement proposé, et c'est ce qui m'avait intéressé notamment dans ce projet.
Est-ce que vous êtes allé chercher des références dans le personnage que vous créez, parce que vous vieillissez vous jouez le rôle d'un homme plus vieux qui même dans sa démarche est droit et avec son par-dessus qui
un peu endimanché habits.
Mais parce qu'il y a ce côté là on monte à Paris, cette expression monter à Paris, donc il met son plus beau manteau, il met sa cravate avec son pull par-dessus, et puis je me suis référé à mon propre père, il y a toujours cette dignité. Voilà. Ouais. C'est des gens qui marchaient très droit, la tête haute.
Et c'est le paradoxe de cette génération qui a beaucoup courbé les chines, en fait, pour se faire accepter. Mais dans sa tête, c'est intellectuel, mais pas physique. Parce que physique, faut être propre, faut être digne, il faut représenter, faut être à la hauteur de l'image qu'on se fait du français en France. Quoi.
Absolument, et se faire oublier surtout.
Ouais, ouais.
Être le plus discret possible. Ça, c'était l'état d'esprit, en tout cas, qui régnait dans cette génération.
Le film de Naïdra Ayadis avec Natacha Krief, Darina Aljoundi, Camille Aguilar, Doria Achour, Faisal Safi, Myriam Zerba et Roj Dizem, notre invité, sort ce mercredi.
Après-demain.
Sort ce mercredi.
Je suis plus convivial.
Et réalisé par...
Ok, dans deux dodos.
Et Naïdra Ayadis, il faut dire, c'est une comédienne qu'on avait vue dans la série Paris, etc., réalisée par Zabou Breitman, qui est au théâtre aussi dans Justice en ce moment. On pourra peut-être aussi évoquer ça, c'est dirigé par une comédienne qui est aussi réalisatrice. C'est complètement... c'est votre profil, Roj Dizem.
Absolument. D'abord, c'est... l'avantage de tourner dans un premier film, c'est que je suis dirigé par une femme qui joue sa vie. Un premier film, c'est... c'est ça qu'on ressent, quoi. Il y a une vraie flamme. Et ensuite, le fait qu'elle soit comédienne, dans la communication, il y a quelque chose qui passe par le regard, c'est une personne qui chuchote. Et ça, c'est très agréable. Et du coup, on peut explorer, approfondir et aller un peu plus loin.
On en reparle tout à l'heure, hein, Ma fille, ce film sort dans deux dodos. Ça sera ce mercredi 12 septembre. Tom Villa, j'aimerais que vous m'expliquiez à quel point vous êtes sûr que ce film va être un succès.
Pourquoi ça va être un succès? Ouais. Parce que c'est un film produit par Thierry Radisson, et donc ça va être génial. Et je dis pas ça parce que c'est aussi mon patron.
Ton employeur,
mais non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais en plus, vraiment,
il paye plus, il est plus sympa.
Non, non, mais tout simplement parce que c'est un sujet universel, parce qu'on s'est tous inquiétés pour nos enfants. Moi, j'en ai pas, mais je me suis quand même inquiété pour les enfants des autres. C'est vrai, ça m'est arrivé exactement deux fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que ce gamin fout tout seul dans cet endroit sordide? Mais comme j'étais à Fort Boyard, ça compte pas.
Et pas un gamin surtout.
Et puis, non, mais en plus, Rojdi, votre perso, il cherche sa fille en pleine nuit dans Paris, et je crois que c'est... C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plus simple de faire du stop bourré sur l'autoroute. Et même si c'est une horreur de chercher son enfant qui a disparu, on est en 2018. Il y a des alertes enlèvement, il y a Internet, il y a les portables. On peut faire des chaînes de soutien avec Twitter, avec Facebook. Avant, on collait des affichettes sur les arbres. En Bretagne, ça n'a jamais permis de retrouver qui que ce soit. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un jeu de piste, mais à l'époque, c'était Koh-Lanta. Parce qu'il y a 30, 40 ans, c'était différent. Les inquiétudes n'étaient pas du tout les mêmes. Mon père, quand il était ado, il conduisait la moto de son frère et roulait sans casque, en short, torse nu, avec ses parents qui l'engueulaient, juste parce qu'ils avaient peur qu'il attrape froid. Tu vois, aujourd'hui, les enfants qui font de la trottinette, ils doivent avoir un casque, des coudières, des genouillères, des gants, et la trottinette, elle doit avoir trois roues pour être sûr d'être plus stable. Non mais c'est terrible, les parents ils sont plus anxieux parce qu'aujourd'hui dès que t'allumes la télé t'as l'impression que les enfants peuvent se faire violer ou agresser n'importe quand, alors qu'avant c'est juste qu'on n'était pas au courant, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que les gens étaient moins flippés et qu'il y avait beaucoup plus d'inscriptions au catéchisme. En fait, le problème quand t'es parent, t'es inquiet pour tes enfants parce que tu te remémores toutes les conneries que toi tu as faites quand tu étais gosse. Et t'as pas envie qu'ils aient envie de faire ce que toi tu as fait. Nous, on faisait partir des feux d'artifice dans des champs secs mi-août, tu vois. Je me souviens, moi, en CM2, j'ai pris le RER tout seul pour aller à Paris un mercredi après-midi. Bon, j'avais 23 ans parce que j'ai beaucoup redoublé. Mais... Non, mais on pouvait acheter des clopes en faisant croire que c'était pour ton père. On pouvait jouer au loto pour ton père. Aujourd'hui, ouais, c'est plus possible. Le plus compliqué, d'ailleurs, c'est d'avoir le code de la carte bleue de ta mère pour se faire livrer les trucs via Internet. Quand tu dis à ton gosse, ne bois pas, ne fume pas, c'est hypocrite parce qu'on a tous essayé. Moi, je lui dirais, fais ce que tu veux. Mais si tu rentres comme ça, tu dors dans le garage. Et je lui montre une photo de Renault, une photo de Doc Gynéco. Voilà. Il y a 40 ans, c'était une époque où tout le monde fumait dans l'avion, dans le train, dans les restos. Pour mes parents, le Nutella, c'était fait qu'à base de cacao et de noisettes. Le Roundup n'éliminait que les mauvaises herbes, tu vois. Il esquivait les plantes et les légumes, comme le nuage de Tchernobyl. On voyait les gens fumer à la télé, boire à la télé. Il n'y avait pas de filtre à particules sur les voitures. On faisait les feux de la Saint-Jean avec des pneus de voiture. Les crampons de foot, à l'époque, étaient en véritable fer. On mettait des gants de moto juste quand il faisait froid, tu vois. Et... les peintures étaient remplies de plomb, les murs d'amiante, on démarrait les barbecues au samplon 95 et on écoutait Peter Sloan, c'était dramatique. Bref, en fait, je crois qu'il faut s'inquiéter pour nos enfants, évidemment, mais il faut surtout s'inquiéter pour nos parents aussi.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Mais c'était pas mieux avant, hein, je t'assure.
Tu l'as connu,
tout ça, ouais. Évidemment, oh, évidemment.
La dans l'avion.
Même les crampons.
Non, les crampons en fer, les cigarettes à la télé, évidemment, tout ça. Vous avez vu ça.
Oui,
et surtout.
Et non seulement, c'est pas la peine de dire, je les achète pour mon père. Tu pourrais les acheter pour toi quand t'avais 12 ans.
L'absence. Alors, je pensais surtout à la ceinture de sécurité. C'est-à-dire qu'on y avait non seulement ça n'existait pas, la ceinture de sécurité ou le casque à moto, ça n'existait pas. Mais on est dans une génération maintenant où ce sont nos enfants qui nous disent de mettre la ceinture quand on monte dans une voiture. Au début, on leur apprend et après, c'est eux qui. T'as oublié de mettre la ceinture.
Saleté de gosse.
Non. Il se croit tout permis. Oh là là, il se croit aucun tout respect. Permis. En live, dans cette émission, elle vient de publier un album qui s'appelle Molecules. Je l'adore. C'est de la folk électro. On va en parler avec elle. Mais elle est surtout rock dans la tête. C'est Sophie Hunger en live.
You say there is still pain. Still glass that is broken. There are still trains you kept from take. Still planes you have not missed. There are still wars you've not applied for. Still accusations you've not made. Some parts you say are still alive. Kiss your nightmares.
can't you see? You should be kissing me.
Still Pain Left sur son nouvel album. Ce nouvel album s'appelle Molécule. La première chose, au-delà d'avoir apprécié cet album, Sophie, et merci de venir le présenter à ce micro, la première chose que j'ai remarqué, c'est cette espèce de virage dans le son, Sophie Hunger, j'ai pas l'habitude d'entendre autant d'électronique.
Non, s'y entendait pas.
Non. Non, mais c'est vrai.
Ouais, je suis déménagée à Berlin il y a quelques années et très vite j'ai compris que là-bas il n'y a pas vraiment une grande scène de musique, des groupes comme moi je connaissais avant, mais il y a une très grande scène de club. Et voilà, je voulais pas être un touriste, j'essayais de. Très vite, je suis
s'intégrer.
Ouais, j'étais très vite là-dedans. Et
donc, quand on entend les artistes dire j'ai enregistré tel album ou écrit tel album dans tel endroit de la planète, ça a vraiment une importance, une influence directement sur le travail. C'est pas qu'un effet de communication ou de pseudo-méditation. Vous, en tout cas, ça a eu cet effet-là.
Je crois quand on fait la musique, souvent c'est des gens qui ont un peu d'empathie. Ça vient un peu avec la créativité, j'imagine. Des fois aussi, ça peut faire mal, avoir trop empathie, mais.
Posez pas la question à Nagui, l'empathie, il connaît rien du tout.
Non, mais
c'est la mauvaise personne.
Mais une conséquence, c'est vrai que souvent, on prend aussi ce qui est autour de nous très vite dedans.
Est-ce que, oui, mais il faut être une éponge. Quand on est un artiste, on est influencé par ce qui se passe autour de soi, j'imagine.
Un petit peu.
Ouais. Ouais. Est-ce que ça présente pas un premier avantage la musique électronique de pouvoir tout faire soi-même dans un studio personnel?
Ouais, ça aussi. J'ai eu envie de travailler dans l'ordinateur tout seul, de me limiter, de être un peu dans un monologue. J'ai eu envie de ça.
Et ça donne, par exemple.
What you
She Makes President, c'est une chanson sur Donald Trump ou la politique en général?
Non, il mérite pas ça, mais non. Non, je voulais faire une chanson qui est une grande, une chanson d'amour pour la femme en général. Et après, j'ai écrit ce morceau et il était au début très, très joyeux avec beaucoup d'accords harmonie majeurs. Oui. Ouais. Et après, oui, après, il y avait cette, cette élection, et après, j'ai ajouté des choses un peu.
Vraiment en fond, voilà, on va garder le titre en fond musical pendant que tu le racontes.
Ouais, après, voilà, c'était plus possible pour moi de le jouer si joyeusement, et j'ai dû mettre quelque chose de très dark et dangereux dedans.
Alors, autre titre sur cet album, Tricks. Il fallait bien qu'à un moment donné, le rock revienne un tout petit peu dans votre voix, dans votre manière de chanter. Tricks, là aussi, c'est on nous ment, tout le monde triche, les hommes d'affaires, les hommes politiques, on nous manipule.
Ouais, c'est vrai, mais je crois les artistes aussi, des fois, ils trichent et ils manipulent. Là, on a des choses un peu en commun.
Ah, je vois, vous connaissez Roche Dizem.
Non, mais la grande question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tout est... When all your dreams have come true, qu'est-ce que tu as à la fin quand ton trick il a marché? C'est quoi la but de tous les tricks?
Quand le rêve devient réalité, on est piégé.
Vous avez compris, dream come true. Hein. Enfin,
moi j'essaye de me rassurer parce que la suite c'est le rêve devient réalité et qu'est-ce qu'on fait une fois que le rêve devient réalité?
C'est ça la finalité de tout c'est ça.
Pour en revenir au titre que vous venez de chanter, There is still pain left, c'est-à-dire que malgré les situations dont on peut se sortir dans la vie, il y a toujours des traces qui restent, il y a toujours des douleurs qui laissent des traces.
J'espère que la douleur reste une trace, sinon c'est pas de douleur, j'imagine.
Mais c'est sur une chanson d'amour. C'est comment vous l'avez écrite cette chanson?
C'est le essai de demander à quelqu'un de faire attention, de dire attention, je suis là. Quelqu'un qui est obsédé par sa propre tristesse. Et voilà, c'est un essai de de faire. Je sais pas comment dire en français.
Allez-y en allemand.
Oui, dites-le en allemand.
En allemand, auf sich aufmerksam zu machen.
Voilà.
Comme ça, c'est dit. Voyez, c'est bien. Ouais. Wow.
C'est pas si compliqué.
En tout cas, ce qui est formidable, c'est qu'il y ait la... l'électronique, qui est le rock, les guitares fortes ou la batterie présente, il y a toujours la sensibilité de Sophie Hunger. On est passé de la lune du précédent album aux molécules. On passe de l'extrêmement lointain à l'intérieur.
Exactement, ouais.
C'est un effet que vous vouliez donner, évidemment. Alors pourquoi molécules, ça veut dire quoi pour vous?
Tout un coup, ça m'intéressait de réfléchir à quelles sont les plus petites particules avec qui tout est construit. Dans la musique, on travaille beaucoup avec les émotions et, si vous voulez, les résultats des choses. Et moi, je voulais savoir c'est quoi la source, c'est quoi tout au début. Et ça se trouve, c'est peut-être un atome ou même plus petit des... Boss Higgins, il y a encore des trucs beaucoup plus petits que ça.
Mais c'est bien d'avoir pris des molécules au milieu d'une musique très électronique et faite plutôt de pixels ou de mémoire et d'informatique. Les molécules, ça pouvait pas aller avec la musique folk, la musique rock, pop?
Ouais, je crois que j'ai essayé de marier.
L'électronique et les molécules.
Ouais, c'est ça. Peu.
En concert et en tournée, vous serez le 12 octobre prochain à Bordeaux, au Rocher de Palmer, le 15 octobre à Paris, à La Cigale, 17 octobre à Strasbourg, à l'Étrie, le 18 octobre à Lyon, et enfin le 21 octobre à Lille. Je l'ai pas précisé parce que chaque fois on rappelle que vous êtes suisse, suissesse et autres, mais je le redis, du côté justement plutôt germanique, mais avec un excellent français, comme vous venez de le prouver. Sophie,
merci.
Hunger revient tout à l'heure pour nous chanter encore deux titres dans sa
musique. Merci beaucoup.
La bande originale.
Et voici l'humeur de Guillermo Ernesto Guiz.
Ça va ? Ça va les amis ?
Oui.
Bon, j'ai un dilemme. J'ai envie de parler de rap, mais voilà, ici c'est risqué parce que je sais que dans le studio on a un public à fleur de peau sur le rap game et tout. C'est vrai, il faut que je fasse une insinuation sur quoi là, que le fait que peut-être que Booba il avait pas tous les torts pour derrière ça parte en bagarre avec Madame là. Je la connais. Alors que je vous le dis, Madame, Carice, je sais que c'est votre gars sûr et tout, mais à Orly les torts étaient partagés. Vraiment, je le sais parce que j'y étais à Orly. J'ai servi de projectile à Carice. Il m'a lancé sur Booba quand il était à court d'eau sauvage. Mais pour autant, j'aime bien son travail à Carice. Vraiment, grâce à Carice, j'ai appris le mot chouin.
Ah oui.
J'adore ce mot, j'adore la sonorité de chouin. Je pourrais le dire toute la journée, chouin, chouin, chouin. C'est dommage, ça veut dire pute, mais je dirais, mais ça c'est l'argot, hein. Ça va, ça vient. Peut-être que dans 10 ans, chouin, ça voudrait dire complètement autre chose. Peut-être carafdo. On dira, si tu voudrais bien me passer la chouin, alors tu répondras, voici, tiens, la chouin, ce sera convivial. Mais je veux dire, c'est un des trucs que j'aime dans le rap. J'apprends des mots. Parce que le rap, ça fait vivre la langue, ça tord le vocabulaire.
Ça veut vraiment dire.
Ça joue.
Oui, bien sûr.
Donc vraiment, moi je trouve que le rap, ça fait vraiment vivre la langue, quoi. Ça tord le vocabulaire et tout. Ça joue sur la sémantique. Moi, ça me stimule intellectuellement. Alors, j'ai essayé de me stimuler intellectuellement avec Claude François. Moi, ça n'a pas pris. J'ai rien contre Claude François. Moi aussi, peut-être un jour, je vais me marier et il faudrait bien faire danser ce qui me reste de tente et tout. Mais je dis juste que Claude François, il tire pas les gens vers le haut. Moi, je l'ai vu dans Taratata, là, en duo avec Cyril Lignac. Moi, c'était limite. C'est vrai, il chantait un pendule de l'entrée, l'autre fois, il a pendu le de l'entrée. Enfin, il y avait un truc qui était vraiment. Claude, non seulement, c'est vrai, Claude, non seulement sa voix, elle me donne envie de crever dans un clip de Renan Luce, mais en plus, je trouve que ses textes, ils sont paresseux. Et 9 fois sur 10, c'est même pas ses textes à lui. C'est vrai, c'est souvent le cas dans la chanson propre. Alors que les rappeurs, ils écrivent leurs textes, quelque part. Ils écrivent leurs textes. Bon, parfois, en effet, pour dire qu'une telle, c'est une grande biatch, et qu'on va lui faire ceci ou cela avec des outils. Mais bon, ils le font en jouant avec le français. C'est vrai, le français, c'est leur glaise. Cette fameuse langue française dont tout le monde se gargarise ici dans les milieux des gens qui savent. Et en fait, eux, ils bossent avec le français, vraiment. Et c'est même pas que je m'y connais spécialement en rap. Moi, longtemps, j'ai cru qu'NTM, ça voulait dire nettoie ton mouchoir. Et je trouvais que ces gens sortaient quand même beaucoup d'albums pour régler leurs problèmes de blanchisserie. Mais j'ai juste que. Je m'identifie au boulot des rappeurs parce que j'adore travailler le français. Mon bonheur dans la vie, c'est vraiment d'écrire en français. Malheureusement, c'est une langue qui n'est pas adaptée aux qualités de ma mâchoire. C'est que j'articule mal le français. En fait, si je pouvais parler urdu, par exemple, ou une langue gutturale, je veux dire, je ferais des chroniques mémorables et les gens, ils riraient dans le public au lieu d'avoir l'air d'attendre les résultats de leur prise de sang. Mais en attendant, comme les rappeurs, moi, ma matière première, c'est ma langue. Vraiment, je bosse avec ma langue. J'essaie d'être le meilleur possible avec ma langue. Et je tiens à dire que la fin de cette vanne est disponible sur le site de Jackie et Michel. Michel est un ami, il sélectionnera parmi nos auditeurs la meilleure chute. Le gagnant pourra gagner évidemment une place dans le premier moyen-métrage coécrit et réalisé par Daniel Morin, Brame de Serre à Mont-de-Marsan. Donc voilà, je trouve ça dommage de dénigrer le rap en brandissant systématiquement ce qui se fait de plus mal écrit dans le rap. C'est vrai, parce qu'à ce tarif-là, moi je peux vous sortir des punchlines de Johnny aussi, hein. Quand je lis quoi ? Des mots. Bon, ça donne envie d'avoir envie, plein de choses, mais pas d'ouvrir un dictionnaire. Hein. Je veux dire, franchement, alors Coxmo, Relsan, Damso, Booba, ou même votre copain Carice, madame, vraiment, bah, en jouant sur la langue, ils peuvent susciter des vocations littéraires chez les gamins, c'est vrai. Mais ça n'excuse pas ce qu'ils m'ont fait à Orly. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, bienvenue.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et Claude François a co-signé les paroles de Comme d'habitude.
Exactement.
S'il te plaît.
Je n'ai jamais été à Mont-de-Marsan.
Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas.
Très très belle chanson.
C'est du coup.
Très très belle chanson.
Et est-ce que tu chantes sur scène, toi?
Je fais une invitation de Cé Jérôme.
Et ben, ça tombe bien, c'est le 27, le 28 et le 29 décembre au Bataclan.
Merci.
Ouais,
décembre.
Et ouais, décembre.
On s'y prend en avance.
Mais faut y aller.
On s'y prend en avance.
Mais c'est demain. Hein.
Bah ouais.
Reparlons de Ma fille, Roche Dizem, dans ce film, puisqu'on était en musique tout à l'heure, il y a aussi cette BO.
À la fin.
Did you sleep last night?
C'est Kimba Rose que nous avions déjà accueilli plusieurs fois dans cette bande originale. Ce film, vous le qualifieriez d'un film optimiste, ou peut-être même d'une espèce d'alarme à donner aux parents pour ne pas rompre la communication avec leurs enfants?
Non, mais c'est vrai que Tom en parlait tout à l'heure, il y a un aspect universel à travers ce film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment les personnages sont jugés, et encore moins la fille qu'on recherche. C'est un film assez factuel, en fait. Il n'y a pas de... y a pas de signal d'alarme, il y a pas de attention. Surveillez bien vos enfants.
C'est très psychologique en même temps et qu'on s'identifie assez rapidement. Enfin, personnellement, au père, évidemment, d'un coup, on est propulsé là-dedans et peut-être même à l'enfant, en disant est-ce que j'ai pas fait peur à mes parents aussi par certaines absences de communication ou
en voulant changer de vie aussi, t'émanciper, parce que évidemment. C'est ça, c'est faire autre chose, quoi.
Évidemment. Ouais. Et puis elle est responsable, elle est adulte, donc elle se dit aussi qu'elle peut avoir la vie qu'elle veut.
On a tous ce réflexe de vouloir protéger nos enfants.
Ouais,
or parfois, c'est souvent maladroit. On a été confronté à ça, nous, avec nos parents, et on s'aperçoit qu'on recrée le même schéma avec nos propres enfants. Et c'est aussi ce que ça raconte, c'est cette difficulté à communiquer avec l'être le plus cher qu'on possède. Et cet amour-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traduit? Comment on l'échange? Voilà, ça soulève un peu toutes ces questions.
Et puis l'aîné, c'est aussi ça, c'est la place dans la fratrie. La communication a l'air plus simple avec la petite dernière parce que elle est peut-être encore, elle est plus moderne, elle a plus de complicité avec son père.
L'aîné sert souvent de cobaye dans les familles.
C'est difficile,
hein.
L'aîné.
C'est souvent le rôle le plus difficile.
C'est un rôle compliqué.
On
est moins détendu peut-être aussi avec l'aîné.
Exactement, ouais. Et puis on est rassuré parce qu'on a toujours peur
de
savoir quel parent on va être. Ouais, ouais. Et puis donc on fait tout sur l'aîné.
Souvent c'est l'aîné qui est le plus battu des parents.
Dans ta famille, ouais. Ouais, ouais. Tom, tu avais un truc à dire.
Non, c'est pas moralisateur, mais à un moment dans le film, le personnage que vous jouez croise une prostituée et qui lui dit, moi j'ai 3 enfants et effectivement je fais peut-être pas un métier forcément bien vu, mais moi je les ai surveillés mes enfants et.
Ils n'ont pas lâché.
Ouais. Ouais.
Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'à aucun moment les personnages, surtout les rôles secondaires, ne sont jugés. Effectivement, quand ils rencontrent cette prostituée, c'est un exemple assez révélateur. C'est-à-dire que elle fait pas ça pour le plaisir, elle fait ça pour échapper à pire. Et c'est souvent des cas et des contextes auxquels sont confrontés des gens qui débarquent en France comme ça, sans rien, sans papier. J'avais déjà fait un film il y a quelques années aussi là-dessus, sur notamment la prostitution sur les grands boulevards. Et pour les avoir rencontrés, c'est des gens qui disait, c'est pour échapper à pire. Il y avait, à l'époque, et c'est aussi le contexte du personnage, ils ont fui l'Algérie qui avait basculé dans l'islamisme à l'époque, dans les années 90. Et ceux qui sont venus en France, c'est souvent des intellectuels, des artistes, des professeurs, puisque ils étaient en première ligne, et c'était les premiers visés par
les extrémistes.
Et ils sont arrivés, sans le sou, sans rien, sans famille, complètement déracinés. Et le personnage que j'interprète fait partie de cette catégorie-là. Et donc la peur, elle est accentuée davantage par rapport à ses propres enfants. Et donc, c'est un amour étouffant,
parce qu'on avait fui un danger et on en retrouve un autre différent.
Complètement différent et auquel on n'est pas habitué, et surtout dont on n'a pas les armes et encore moins les codes.
Non, c'est un très beau film. Je trouve que c'est très beau de raconter cette histoire-là de l'immigration, de ce qu'on projette sur ses enfants pour bien comprendre aussi où est-ce qu'on évolue, pourquoi on n'est pas tous élevés de la même façon et qu'on se sent pas tous les mêmes libertés en fait. Je trouve que c'est très beau.
Et ça aurait très bien pu se passer au sein d'une famille typiquement française.
Ouais, ça marche à tous les niveaux, y compris d'ailleurs aussi sur le voisin. Le regard des autres, qui sait quoi de ce qui se passe dans l'immeuble, les réseaux, la manière dont en tout cas quelqu'un peut venir faire un stage, puis ne plus venir suivre ce stage, et personne ne sait ce qui est arrivé ou pas. Personne ne s'inquiète même de savoir où est cette personne. C'est fou.
Paris, pour ça, c'est Paris, très violent. Tous ceux qui ont débarqué de province, je ne parle même pas d'étrangers, qui sont arrivés à Paris, ils ont mis au moins 2 ans à s'adapter à cette ville qui est quand même assez violente, qui est pas la plus chaleureuse, mais après dont on a du mal à se passer
Mais le meilleur exemple, c'est que Thierry Ardisson, qui est un des producteurs, lui, c'est une histoire qui lui parlait particulièrement.
Oui, Thierry raconte souvent cette anecdote que lui, quand il était arrivé à Paris, son père a venu le chercher parce que il avait effectivement fait une tentative de suicide, de raison sentimentale. Et c'est ce qui lui a évoqué l'idée d'adapter ce livre.
Le récupérer dans une chambre d'hôpital. Quoi.
Le film s'appelle Ma fille et il sort ce mercredi.
Après-demain.
Soyons
humains, soyons humains.
C'est vrai.
C'est administratif, on dira comptable.
Regis restera peut-être jusqu'à midi et demi, c'est pas sûr. La bande originale de La vie de Regis M, on va commencer tout simplement en 65. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Help, you know I need someone. Help. François. So much younger than today. I never
C'est bien de commencer la bande originale par des paroles qui disent justement quand j'étais gamin, quand j'étais petit, j'avais besoin de l'aide de personne, je me débrouillais, j'étais sûr de moi et tout allait bien. C'est avec cette musique que vous avez grandi ?
Alors, pourquoi cette musique ? D'abord, parce qu'elle était numéro 1 le jour de ma naissance. Help était numéro 1 dans les charts anglo-saxons et français. Et ensuite, c'est parce que je réécoute beaucoup les Beatles en ce moment. Je sais pas si, moi, j'avais complètement perdu l'écoute de ce groupe.
Quand on est célibataire, on a plein de temps d'un seul cours.
Ouais, c'est
un message de caractère informatif.
Mais je redécouvre les Beatles. Ça faisait, je sais pas, 25, 30 ans que je n'écoutais plus les Beatles. Et c'est fou à quel point c'est moderne, c'est formidable.
Il y a des mélodies dedans. Ouais.
Et en plongeant dans les interviews, quand vous racontez votre histoire, la chanson dit « Je n'ai besoin de personne », mais en fait, vous aviez surtout, je crois, une mère qui a fait en sorte que...
Ah, moi, j'avais besoin de ma mère.
Ouais, voilà, c'est
j'avais
ça.
J'avais besoin de ma mère, de ma famille. Enfin, moi, je suis très famille, moi.
Ouais, ouais. Donc, c'est aussi une partie de l'histoire de l'immigration, votre histoire, Roche Dizem. Vous êtes le premier de la fratrie à être né en France, vous êtes 5 enfants.
Ouais.
Votre père travaillait déjà en France depuis 5 ans, je crois, le temps que la famille arrive. Et c'est votre mère, en fait, qui décide de dire « Bon, je fais le forcing, je viens, parce qu'on ne peut pas être séparés. »
Oui, oui. Bah, après, il y avait une loi qui avait permis le regroupement familial et on s'était installé dans les bidonvilles à Nanterre. Et effectivement, c'est ma mère qui a voulu ça et qui a fait que je suis là aujourd'hui avec vous.
Ouais, qui a voulu aussi que... Ouais, qui était très très ouverte d'esprit. Vous soulignez toujours ça dans les interviews. Il y a une sorte d'hommage, de dette sans cesse rendue à la figure
maternelle.
Non,
mais c'est fou,
maternelle,
c'est fou à quel point ce qu'on est... Voilà, c'est aussi l'amour qui nous a été donné. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, comme beaucoup d'enfants, d'avoir été couvert d'amour par ma mère, avec l'autorité pour compenser du père. Mais autorité très juste, hein. On parle souvent des quartiers, etc., de la difficulté, etc. Moi, j'ai vécu des moments de mon enfance
d'amour intense.
D'amour, enfin voilà, c'est la vie dans les quartiers. C'était pour moi, c'était du rêve jusqu'à un certain âge. Ce qui, d'ailleurs, j'ai enchaîné après avec le prochain morceau parce qu'à un moment, il fallait se barrer du quartier, quoi.
Eh ben, on y arrive. On est en 95, Born to Run. And Mary ran the angel of the glory, suicide machines. Ah ouais, capable de faire un karaoké Bruce Springsteen.
Ah ouais, sans problème,
vous êtes fan.
C'est dans quel film que je vous avais vu chanter ? Vous étiez un pompier ? C'est ça ?
Ouais, c'est dans Les Hommes du Feu de
Pierre
Jolivet.
C'était quoi, du Bruce Springsteen ?
Non, c'était pas du Springsteen, on n'avait pas eu les droits. On a chanté, comment il s'appelle ce groupe qui chante ?
Lynyrd Skynyrd.
Ouais, voilà, ouais, exactement.
Springsteen, Born to Run, il fallait commencer à courir un moment.
Enfin, moi, je l'avais traduit par né pour fuir, pour s'enfuir, en fait. Parce que c'est tout le problème des endroits où on grandit. C'est-à-dire, tant que t'es gamin, c'est formidable, on s'amuse, etc. Mais l'horizon s'assombrit au fur et à mesure que tu grandis. Et c'était un peu le cas de la Seine-Saint-Denis. Et ce morceau Springsteen, il était très parlant pour moi, parce qu'il est sorti en 76, 77. Et je dis, c'est exactement ça. C'est à un moment, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit, va falloir que tu bouges, va falloir partir d'ici, quoi.
Mais dans les années 90, c'était pas le rap qui venait sonner, frapper à votre porte, c'était
non,
plutôt le rock.
J'étais un peu, c'était les plus jeunes qui écoutaient le rap. C'est-à-dire quand t'as écouté Springsteen, Dylan, etc., c'est très dur de passer de ces gens-là au rap. Et effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, NTM, etc. Pour nous, le gap, il était énorme entre le rap et le rock. Donc, je suis resté très rock. Mais j'aime bien le rap, j'aime beaucoup le rap.
Oui, non, mais j'entends.
J'ai pas basculé. Ouais.
Et dans ces années-là, il y a aussi le départ, mais il y a une rencontre. Il y a la rencontre de Xavier Beauvois.
Ouais,
parce que ça aussi, ça change les choses, c'est les gens qu'on croise. Et c'est une rencontre assez improbable. Je crois que vous devez faire une silhouette initialement sur un film.
C'est quoi la nuance déjà entre figurant et silhouette ? Il y en a un des deux qui parle ?
Oui, non, c'est pas ça. Non. Alors, pas tout à fait. Non, mais il n'a pas tout à fait tort. Ah bon. Mais silhouette, c'est il y a un plan sur vous. Voilà. C'est-à-dire que
le figurant, il passe. On peut être 10 000.
Il passe, il est au loin, etc.
C'est ça.
Silhouette, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mouvement de caméra qui fait que vous apparaissez en plan assez serré à l'écran. Et là, vous passez en silhouette.
Et si on parle, après, on est aussi
pas le même cachet. Si on parle, je crois que c'est plus le...
C'est plus le même cachet.
Il gagne 20 ou 30 euros de plus.
Donc là, vous, c'était silhouette.
Oui, mais ça fait pas rire, ça.
Au début, c'était silhouette.
Je suis venu pour donner une photo, pour faire une silhouette dans son film. Et il est passé au même moment. Il m'a regardé, il m'a dit, je vais te donner le scénario, tu vas le dire, tu vas me rappeler. Et en fait, je suis pas sorti de l'immeuble, je me suis mis en bas. J'ai fini. Et il m'a fait passer des essais. Et c'est un rôle donc dans N'oublie pas que tu vas mourir, qui est qui à l'époque, donc en 94 ou en 95, donc, était sélectionné à Cannes.
95.
Et qui m'a fait rentrer les deux pieds dans le cinéma français.
Mais il y a Téchiné aussi qui.
Téchiné, alors Téchiné, c'est
les premières armes. Vous avez déjà regardé,
ouais,
quoi.
Ouais. Hein, Téchiné, c'est les premières armes. Et d'ailleurs, ouais. Beauvois avait appelé Téchiné pour lui dire qu'est-ce que tu penses de cet acteur. Et il lui a dit alors vas-y, les yeux fermés. Donc.
Ce qui n'est pas toujours bon pour un réalisateur.
Non, ça c'est bon, ça.
Ça dépend. Pour moi, ça a été bon.
Il y en a plus d'un qui le fait. On les reçoit ici et les films, c'est pas ça.
Et il y a eu de la fidélité entre Xavier Beauvois et vous. Ouais. Ça s'est répété plusieurs fois.
Bah, d'abord, c'est le parrain de ma fille. J'étais le témoin de son mariage et on est toujours très en contact. Et on a fait.
C'est pas gênant de.
Quatre films ensemble.
Oui, non, mais je veux dire, voilà, de faire. De travailler et d'un coup, qu'il y ait des barrières sentimentales, humaines, affectives qui peuvent fausser après le travail.
Tant que c'est après le travail, c'est pas un problème, c'est pendant le travail. Mais non, au contraire, enfin, pour parler de Beauvois ou de Pierre Jolivet que j'évoquais, avec lequel j'ai fait 6 films, ça a plutôt été des éléments qui nous ont tirés vers le haut, parce qu'au contraire, on a envie de démontrer qu'on a changé, qu'on a évolué. Lui-même, que ce soit Xavier ou Pierre, ils ont envie de montrer qu'ils ont, de te démontrer en tout cas que ils t'ont pas choisi par hasard. Enfin, ouais, on se tire la bourre, quoi, tout simplement. Quoi. C'est...
Mais quelquefois, quand il y a des rapports familiers comme ça qui sont très
familiaux
très
ou pas familiers.
Ou familiers aussi. Moi qui suis le père du dernier enfant de Nagui, j'ai fait ça par amitié au départ et maintenant ça nous colle. Je sais pas si c'est pour mon talent parce que je suis le père de son dernier enfant qui me fait travailler. Je sais pas, ça fausse la raison.
Moi non plus, je sais pas pourquoi t'es là.
C'est pas. ça fausse tout.
Ouais, voilà, du rap.
Non, bah non, dis pas ça, tu vas avoir des problèmes.
Pourquoi ?
C'est Mel Brooks, c'est une parodie de rap, c'est une vanne plus que du rap, ça. It's Good to be the King, c'était la BO d'un film ?
Ouais.
Non, pas du tout, si. Mais. Si. Ah oui, bien sûr, oui. Non, je parle de. Oui, bien sûr.
Mais
oui.
Pourquoi avoir choisi cette musique ?
Pourquoi ? Parce que vous avez évoqué dans votre demande la pièce de Shakespeare,
exact,
le Conte d'hiver, où je jouais donc le roi.
Oui.
Et c'est vrai que c'est. Bah, du coup, j'ai pensé tout de suite à ce morceau parce que It's Good to be the King, de jouer le roi sur scène pendant 3 heures, c'est. Tu fais ce que tu veux.
C'est un kiff.
Tu fais ce que tu veux. Et le roi, un peu. Comment dire, assez autoritaire, oui. Pour pas dire un dictateur. Et même avec tes partenaires, tu fais ce que tu veux. Je me souviens, il y avait un des comédiens que je devais attraper par le nez, comme ça, et le traîner sur toute la scène. Et le pauvre, il avait un nez, il devenait de plus en plus rouge. Et je disais, il me disait, non, mais vas-y, bien sûr, c'est le rôle.
Et vous avez rejoué avec Gérard Depardieu, ou c'était juste pour...
Et l'expérience au théâtre, parce que en 2003, vous n'aviez pas beaucoup été sur les planches.
Non.
Et tout d'un coup, incarner ce roi, ce Shakespeare sur scène.
Ça doit faire peur, non ?
Ouais, on doit être.
Oui, bien sûr que ça fait peur. C'est une peur moteur. Donc, et puis, il y avait une très très belle équipe. Il y avait Romain de Bourringer, entre autres. La mise en scène était de Pierre Pradinas. Et c'était aussi de retrouver aussi cet aspect artisanal de notre métier. C'est vraiment, on est une troupe, on joue tous ensemble, après on part en tournée. Ça m'avait manqué, ça. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas au cinéma, où chacun rentre chez soi après. Là, il y avait quelque chose de...
Oui, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de répétitif et peut-être même de contraignant, c'est être tous les soirs à la même heure, au même endroit, pendant
X semaines ou mois. La seule chose qui est répétitive, c'est le trajet, c'est vrai. Le fait d'aller tous les jours au même endroit et de croiser les mêmes personnes à la même heure.
Comme d'aller au taf.
Ouais, c'est ça. Mais une fois qu'on est sur scène... C'est
il y a pas deux soirs qui se ressemblent.
C'est très cliché de dire ça, mais c'est la vérité. C'est que au moment où le rideau s'ouvre, c'est un autre jour. C'est y a quelque chose de nouveau et d'inédit et d'original qui se passe. Et voilà. Et c'est quelque chose qui se remet. C'est un jour sans fin comme ça, comme dans le film.
Et des journées des marmottes. Ouais. Et ouais. Pour en revenir à 2018, donc mercredi 12 septembre, c'est-à-dire dans deux dodos, c'est-à-dire après-demain. Voilà, ça va. J'ai fait le tour là.
Il a fallu le temps, 53 minutes.
Combien de repas du coup ?
Ça s'appelle Ma fille. Et c'est un film signé Neydra Ayadi avec Roche Dizem qui est notre invité jusqu'à 12h30. Elle revient dans la bande originale. Elle, c'est Sophie Hunger avec son album qui s'appelle Molécule. Elle est en tournée au mois d'octobre. Je vous redonnerai les dates après qu'elle nous ait offert sa version de Purple Rain dans la bande originale. Sophie Hunger.
meant to cause you any trouble. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Je tire.
Commencer par Prince et faire un clin d'œil à PNL, à Maniac. C'est tout le talent de Sophie Hunger et toutes les influences. Voilà, on parlait du rap, on parlait du pop, de la pop rock en tout cas. Mais c'est surtout la sensibilité, ce qu'en fait Sophie Hunger. Allez la voir sur scène, vous ne serez pas déçus. Le 12 octobre à Bordeaux, le 15 octobre à Paris à la Cigale, 17 octobre à Strasbourg, à Lyon. Elle sera le 18 octobre et le 21 octobre, elle sera à Lille.
Say some things out loud. A quiet, careless detonation.
Ça c'est The Actress, autre extrait de cet album Molécule de Sophie Hunger. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
La victoire de la France à la Coupe du Monde en juillet a été magique.
Oui, le défilé des joueurs sur les Champs-Élysées avait aussi été magique dans le sens où on ne l'avait pas vu, hein, parce que le bus roulait trop vite. Et pendant trois jours, personne ne savait où était la Coupe. Et en fait, c'est Benalla qui l'avait chez lui, sur sa cheminée, à côté du set d'or de Patrick Sabatier et de César d'Isabelle Huppert. Et on la prend là, maintenant.
C'est génial.
Ça vous fait... D'ailleurs, tiens, Rojdi, vous parlez de temps en temps politique, vous vous impliquez, vous réagissez sur l'actualité ou au contraire vous interdisez de dire quoi que ce soit là-dessus?
Ah, il vient de sortir du studio, dis donc, c'est beau, hein.
Non, bien sûr, mais je parle de tout, mais j'en parle plus facilement à travers mes personnages, c'est vrai, mais il n'y a pas de sujet tabou.
C'est fini les acteurs qui, ceux qui étaient invités à 7 sur 7 à l'époque, qui étaient des acteurs militants, les Yves Montand et autres. Vous pensez que maintenant il faut plaire à tout le monde et ne pas se mouiller?
Non, je pense pas, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'émissions pièges. Avec des
chroniques.
Hein,
qui cherchent le buzz.
Qui cherchent le buzz et avec un chroniqueur toujours un peu plus acerbe.
C'est quoi votre avis sur le conflit israélo-palestinien?
Non, mais c'est exactement ça. Et donc du coup, le le débat se fait dans l'adversité. Oui. Et forcément, les acteurs sont beaucoup moins forts qu'un Zemmour ou un autre, pour ne pas le citer, pour polémiquer à travers ça, sur des sujets aussi épineux, en tout cas.
Roger Zamé, notre invité, jusqu'à midi et demi sur Inter. Soyez les bienvenus, Leïla Kadouroudadi.
Bonjour à vous.
Et là, Daniel Morin aussi. Tom Villa.
Bonjour.
Guillaume Gris. Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Tout à l'heure, donc en live, Sophie Unger et notre invité, Roche Gizem.
Bonjour.
Roche Z, avec ce film, pardon, mais que moi je qualifie de road movie, puisqu'il part de sa province pour monter à la capitale, et sauver, enfin chercher d'abord dans un premier temps sa fille aînée, accompagnée par sa fille cadette, et puis, d'ailleurs il l'emmène, enfin pardon, et après il va la chercher dans les méandres, dans les nuits, ou dans les fumées de salles obscures, il emmène sa fille cadette comme pour... avoir un moyen de communication supplémentaire avec elle, comme pour se rassurer lui d'ailleurs, et pas spécialement l'oublier elle.
Non, parce que ça parle aussi de ce monde auquel il est complètement étranger, à savoir le monde numérique, ouais. Puisqu'elle lui dit oui, tu peux prendre un Blablacar, enfin bon bref, les...
Tout ce qui est les applications.
Toutes les applications qui permettent de se retrouver, etc. Il est un peu comme moi. Il n'est pas du tout le même.
De quoi? Ça s'appelle communautaire, non, ces applications? Comment ça s'appelle, non?
Géolocalisation.
Partage de services.
Oui. Ah oui. D'accord, partage de services.
Enfin bref, il comprend très vite que sans elle, il ne s'en sortira pas. Et c'est la raison principale pour laquelle il l'emmène, mais je crois que c'est aussi inconsciemment une façon aussi de la trouver, elle, puisqu'elle grandit au sein de la famille, mais. Du fait de son travail, de sa culture aussi, de sa personnalité, qui est un homme qui est très taiseux, qui échange peu. Je crois que c'est aussi le moyen pour lui de l'avoir pour lui seul et de mieux la connaître et du coup d'échanger.
Alors, il y a des
filles en plus, c'est des filles. Voilà, c'est des filles. C'est pas des garçons, c'est des pas filles, exactement
ouais.
le même
pas mal,
lien.
Ça, comme c'est des filles, c'est pas des garçons.
Non, mais c'est là-dessus. Dans le lien affectif ou dans la démonstration de l'affection.
Non, dans la peur du danger, surtout.
Dans la peur aussi du danger, mais je pense que ça pose aussi une petite distance dans la relation. Elles deviennent des femmes.
Elles deviennent des femmes, absolument,
des
et c'est quelque chose que je connais bien. Mais c'est vrai qu'on a peur. On a davantage peur pour son enfant quand c'est une fille. C'est vrai. On a l'impression que c'est une proie, on a l'impression que son garçon s'en sortira forcément plus facilement. Ce qui est.
Mais vous dites, c'est quelque chose que je connais bien. Vous y pensez forcément en tant que papa, mais ça vous a servi aussi pour le personnage et pour le rôle.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que quand votre enfant, fille, devient une jeune femme. Le rapport, il est assez complexe. C'est très difficile de savoir comment maintenant on va communiquer. Il n'y a plus cette demande d'affection qui était naturelle. Aujourd'hui,
on fait plus les mêmes câlins.
On fait plus les mêmes câlins. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent.
Ma fille de 10 ans, je lui donne encore son bain.
Ouais. c'est ça qui est honteux.
Et c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant. Et le personnage va pouvoir se révéler grâce à ça.
Ouais. Et il a peur évidemment de tous les dangers pour sa fille ou pour ses filles, à tel point que lui-même va par moment risquer sa vie ou se mettre en danger et il n'a peur de rien contre lui en fait.
Non, on parle beaucoup de l'instinct maternel, mais là en l'occurrence, il s'agit de l'instinct paternel et effectivement, il est prêt à donner sa vie pour essayer de la sauver.
Ça s'appelle Ma fille, c'est au cinéma à partir de ce mercredi 12 septembre et Roche Gizem en est le rôle principal. C'est quand même la pression de la date, c'est quand même quelque chose de particulier.
Attention.
Il n'y a aucune contrepétrie dans cette phrase. Voici Tanguy Bassureau. La France, Tanguy, est une nation de sportifs.
Oui, on a toujours été à fond sur le sport. Hein. Regardez dans l'histoire, 1572, la Saint-Barthélemy. C'est nous qui avons inventé le free fight. Certes, avec des épées. Et on n'avait pas prévenu les protestants qu'il y avait match. Mais bref. En 1791, on s'est mis à poursuivre Louis XVI. Résultat, il est parti au galop à cheval direction Varennes. C'est la création du PMU. Quant à Napoléon, qu'on avait laissé seul à Sainte-Hélène, c'était le Koh-Lanta de l'époque. Si jamais il avait voulu se tailler, ça aurait été un pionnier du 2000 million de mètres papillons. Mais il a préféré rester à glander en bord de mer avec son chapeau à la con. Napoléon, c'était le Geneviève de Fontenay alors. Donc le sport, c'est une passion française. Vous-même, Nagui, oui. Avez claqué en juin le bilan carbone de 120 ans de tournée mondiale d'Aerosmith. Juste pour voir nos 11 gus éclater les Belges et les Croates. Une émission sur deux, vous n'étiez pas là. Puis à nouveau là, puis plus là. J'avais l'impression que j'étais en train de jouer à Coucou la voilà, mais avec vous à la place de mon sexe. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je vous confonds tous les deux. Taille. C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai regardé avec tendresse, en vous trouvant encore vif pour votre âge. Seulement, quand on gagne, derrière, on est un foutu d'organiser les choses proprement. C'est un boxon semblable à celui qu'il y a dans la tête d'Ariel Dombal. En juillet, on gagne la Coupe du Monde, comme tous les 20 ans. Donc là, on se dit, super, on va coller les mecs en haut d'un bus et ils vont saluer le peuple. Hein, ça va faire comme un défilé de Kim Jong-un, mais sans Depardieu défoncé en train d'envoyer des sextos à la moitié des tyrans de la planète. Hein, c'est le seul mec à être en permanence en 4G, donc 4 grammes. Hein, quand il va décuiter et réaliser qu'il a servi la soupe à tous les tortionnaires du monde, il va se mettre au chouette sa grume. Donc tout le monde attend sur les Champs-Élysées, plus belle avenue du monde selon l'Office du tourisme de Paris, succession inepte de McDo interlope où vendais-je des touristes ruinés par l'achat d'un sac Vuitton juste à côté selon les Parisiens. Puis le bus arrive et là il se met à dévaler les champs tel le PO le teckel de Christopher Froome si c'était assis sur la seringue de son maître. Et là les Bleus, on le sait maintenant, sont furieux parce qu'ils gagnent le mondial et n'ont même pas le temps d'être adulés. C'est comme si Christophe Mahé après Bercy était exfiltré jusqu'à sa yourte sans pouvoir écouter les petites nanas en train de lui hurler d'accord t'es sapé comme José Bové, mais si je ferme les yeux je suis ok pour que tu me fasses un gosse. Exemple, Paul Pogba dans la presse il y a 8 jours s'est dit dégoûté, pas parce qu'il a fait son coiffeur mais par cette histoire de bus.
Et Antoine Griezmann d'ailleurs mercredi dernier pardon, a dit la même chose à l'équipe.
Bah oui, les types sont jeunes, ils ont soif de partage avec d'autres gens, ils vivent d'amour et d'eau fraîche qui attend dans le minibar de la Bugatti Chiron. L'eau bien sûr, puisque l'amour attend sur la banquette arrière. Et là on leur coupe le lien avec les gens, tout ça pour arriver plus vite à l'Elysée voir Macron, parce que c'est ça l'histoire. Nous on est là comme des gueux à voir les types passer à toute berzingue, juste pour que le roi nuage, c'est comme le roi soleil mais quand on vient du Touquet, n'ait pas à attendre 5 minutes dans la grande boîte à Soudoué dans laquelle on l'a envoyé il y a un an et demi. Et là les images le montrent, c'est Benalla, hein, le rambossette de la REM. C'est un marcheur comme les autres, sauf que lui marche sur la tête des gens, qui fait signe au chauffeur du bus de foncer. C'est-à-dire que c'est un seul gonce qui a gâché le plaisir de tous les autres. Comme quand on s'est offert un Paris-New York en business et qu'on est à côté d'un vieux qui a des gaz. Pire, d'après l'émission Quotidien, celle des mecs qui portent des vestes de costard avec des baskets en pensant qu'il s'agit d'un look viable. Benalla a gardé la Coupe du Monde chez lui pendant 3 jours, alors que tous les joueurs la cherchaient. Le type est fou. Hein, je pense que vous allez dîner chez lui, sur la table il y a 6 plateaux d'argent de finaliste de Roland-Garros, et il vous apporte les cordons bleus avec. Un rapport protégé pour lui, c'est débouler à poil face à une fille planquée derrière le bouclier de Brennus. C'est un kleptomane de trophée. Votre neveu gagne ping-pong niveau communal, on veut lui filer une coupe et là quelqu'un dit « Ah bah non, il y a Benalla qui est parti avec hein, !» Il a loué un box en garde-meuble juste pour casser toutes les coupes. Donc en fait, on réalise que Benalla, hein, dont l'Elysée refuse toujours de révéler le salaire puisque ils n'ont pas de dactylo capable de taper autant de zéros à la suite, était le personnage numéro 1 de l'État. Il disait à Macron « Bébé, c'est moi qui ai la coupe, j'ai aussi pris la mallette nucléaire et Brigitte dort à la maison ce soir hein, !» Et l'autre répondait « Ok Alex, bien sûr Alex, tu fais comme tu le sens Alex !» Pendant un an, on a eu comme président Alexandre Benalla, le mandat d'Emmanuel Macron peut enfin commencer.
Merci. Pour revenir sur ma fille, Roche Dizem, avec
qui est un film, hein, sinon la phrase est bizarre quand même.
Avec ce film, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais si tu m'interromps pas, je peux finir ma phrase. C'est insupportable. Roger, vous pensez quoi de cette émission? D'accord.
Je crois que vous voyez trop souvent tout cela.
Ouais. Trop de temps.
Il faut prendre un peu de recul.
Ouais. Ouais, voilà. On va prendre des vacances.
Prenez des vacances,
voilà.
Quelle belle idée.
Je vais d'abord.
Faire un film justement qui est réalisé par une comédienne en étant soi-même réalisateur et comédien. Leïla en a parlé tout à l'heure. C'est un exercice agréable parce qu'on est parfaitement complice avec les indications données ou on donne aussi quelques conseils parce que on a parce que vous avez tourné plus de films qu'elle.
Alors en mise en scène, non, je donne pas trop de conseils parce que la mise en scène c'est un travail qui se fait en amont pendant plusieurs mois. Il y a une préparation du découpage et quand j'arrive sur le plateau, évidemment, je suis pas au courant du découpage, donc je vais pas dire tu vas mettre ta caméra là-bas. Donc je me mêle pas de la mise en scène.
Et sur la direction d'acteur?
Direction d'acteur, oui.
Les intentions.
Mais ça c'est avec tous les metteurs en scène, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux même. même quand je suis metteur en scène, j'attends d'un acteur qui me fasse des propositions, évidemment.
Vous auriez pu réaliser ce film ?
Non, parce que c'est un personnage...
Vous deviez,
non ? Ça a été évoqué, mais c'est pour ça que je réponds non. Parce que le personnage étant de tous les plans, honnêtement, être dans les deux côtés de la caméra avec un personnage aussi important, aussi présent, ça me semblait compliqué.
Retour dans cette émission de celle qui a chanté tout à l'heure. Sophie Hunger, There Is Still Pain Left, ou encore... Sur l'album, il y a également Silver Lane. Ou Let It Come Down. Elle va nous interpréter une chanson qui s'appelle Coucou, qui est une espèce de berceuse lorsqu'une histoire d'amour se finit. Il n'y a pas que simplement deux personnes qui se séparent, mais il y a aussi les amis des uns et des autres qui restent sur le bord de la route. La chanson, la voici, elle fait partie de son album qui s'appelle Molécules. Sophie Hunger. Sophie Hunger, évidemment, ceux qui restent sur le côté lorsqu'un couple se sépare, ce sont les enfants évoqués dans cette jolie berceuse. Coucou sur son dernier album. Merci mille fois, Sophie. Bonne tournée, en tout cas, et encore bravo.
Merci beaucoup.
À très vite. Sophie Hunger était dans la bande originale.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Et dans l'émotion, oui, de la peur de ces enfants abandonnés, soit par un divorce, soit par les parents, soit par un problème de communication, on retombe totalement aussi dans cette fragilité de ce film, parce que justement le film est sur un fil, ce film Ma fille, c'est sur un fil en permanence, on ne sait pas de quel côté on va basculer, on ne sait pas vers quel drame on se dirige, on a on est totalement à la place du père, puisqu'on ne sait pas où est la fille ni ce qui lui est arrivé, et on a peur pour elle, comme on est inquiet pour lui.
Oui, on comprend assez vite qu'elle est rentrée dans un univers qui est assez inquiétant, et on vit ça de...
En fréquentant des gens infréquentables.
Oui, absolument. Et on vit ça de l'intérieur de l'esprit du père. Et donc c'est lui qui est le fil rouge et qui nous emmène en fait dans les méandres des nuits parisiennes et découvrir un peu ce milieu un peu de luxure et de stupre et autres. Et
c'est pour ça que le titre,
tout ça est vu à travers son regard.
C'est pour ça que le titre est bien trouvé, parce que ma fille, c'est par son prisme que l'on voit cette fille Leïla qui a quitté le domaine, enfin qui a quitté sa famille pour réussir à Paris et qui est prête à tout pour réussir, y compris à se mettre en danger, y compris à se prostituer.
Et puis surtout, ça nous permet aussi de découvrir à quel point on connaît pas si bien que ça nos enfants. Je sais pas si vous avez eu cette expérience.
Non, pas encore.
Non, mais pas celle-là.
Il y en a, ils savent même pas qu'ils existent.
Je voudrais aller au bout de
mon analyse. S'il vous plaît, oui, préciser.
Non, non, mais quand vous allez par exemple rencontrer les professeurs. Ouais. Et qui vous parle de votre enfant.
Ouais. On voit pas le même.
Dit, mais, je suis père d'un tel, pas. Non, pas, je parle bien de lui. Et c'est pas du tout le même. Et nous-mêmes, je me souviens quand mes parents écoutaient les profs parlant de moi, ils m'ont dit, tu fais ça, toi. Et c'est vrai qu'on n'est pas les mêmes dans l'enceinte intime familiale.
C'est l'inverse, c'est quand je vais récupérer mes enfants qui ont passé, par exemple, qui ont fait une soirée pyjama chez d'autres parents, il est très poli, il est formidable, il est très gentil.
Oui, ça c'est vrai aussi.
Non, c'est pas le mien. Moi, je vais récupérer le mien. L'autre,
c'est vrai aussi. Je vais la garder l'autre.
C'est celui qui crie.
Mais ça veut dire que quand même, l'enfant, il a une attitude personnalisée en fonction du contexte dans lequel il se trouve.
Il a une vie sociale qui n'est pas sa vie familiale et qu'il n'a pas les mêmes rapports avec ses parents.
On est persuadé, par exemple, que nos enfants ne fument pas. Et puis d'un coup, on découvre...
Quoi ? Voilà. Des excuses à présenter.
C'est vrai, non ? Parce qu'on dit toujours, moi, je sais qu'elle ne fume pas.
Ça sent le vécu, il y a un truc là, il faut qu'on s'en parle, je pense qu'il y a un truc.
Non, c'est le rêve de Daniel Morin.
Ah mon Dieu,
je suis là.
C'était le bon temps.
Voilà plus de 10 ans que la soif de découverte me fait parcourir les plus beaux paysages de la planète.
Bah c'est fini tout ça. C'est officiel, Fred Lopez ne sera plus aux côtés de ses invités dans Rendez-vous en Terre Inconnue, il l'a expliqué. Il est au bout du rouleau.
Ah ouais, toi aussi, dis donc.
Il a déclaré, ouais, ça m'en triste, il a dit que pendant 15 ans de Rendez-vous en Terre Inconnue, il avait l'impression qu'on filmait les moments les plus bouleversants de sa vie, que ça devenait, je cite, de plus en plus douloureux. Il n'en pouvait plus. Trop dur de ramener toute cette charge émotionnelle chez lui. Pas facile, la vie d'un Lopez. Toute cette émotion en pleine gueule, je le comprends. Et là, je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet pour la suite. France Inter Flash spécial, on vient de l'apprendre. Après avoir dit stop à la présentation de Rendez-vous Inter Inconnu, Fred Lopez prend une autre décision choc. Il a déclaré hier à nos confrères de Modes et Travaux, il arrête d'aller lui-même à la boulangerie. Selon l'animateur, avoir tous les jours à choisir entre chocolatine et croissant devenait insupportable, une charge émotionnelle trop forte. Fatigué de pleurer dans son thé aromatisé au bambou, il a dit stop. Ah bah quand t'es sensible, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais du respect pour les gens à fleur de peau comme lui. Enfin, lui ou Guillermo Guise, vous l'avez entendu tout à l'heure, s'exprimer avec de plus en plus de difficultés.
Non.
Trop de sensibilité, hein. Chaque semaine, quand il voit l'état de délabrement physique et mental de notre rédacteur en chef, l'émotion lui noue la gorge. La tristesse lui paralyse la langue et le résultat, on le connaît. Ben, on l'a entendu il y a une heure, hein. Chronique inaudible, incompréhensible, qui n'inspire qu'un sentiment. Celui de la pitié pour un homme qui fait des efforts, mais enfin... France Inter Flasheuse spéciale, on vient de l'apprendre. Après avoir dit stop à la présentation de Rendez-vous Inter Inconnu et mis un terme à l'achat de viennoiseries, Frédéric Lopez prend une troisième décision choc. Il a déclaré hier à nos confrères de Jeune et Jolie, il arrête lui-même d'aller ouvrir la porte de chez lui. Selon l'animateur, aller ouvrir quand tu sais pas qui sera derrière la porte, le facteur, un ami, un grand singe, les frères Bogdanov, tout ça devenait insupportable. La charge émotionnelle était trop forte. Fatigué de pleurer sur son paillasson en poil de yak, tressé, il a dit stop. Ah oui, bien sûr, vous en doutez, le milieu de la télé, c'est une grande famille. Nagui lui a tout de suite proposé de le faire travailler sur un format qualifié de plus doux émotionnellement. Et il a fait un test pour N'oubliez pas les paroles. Alors Bruno, vous avez choisi Dalida ?
Oui.
Avant de commencer, Bruno, Avant de commencer, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de chanteuse morte? Est-ce que la charge émotionnelle portée par cette femme malheureuse vous aide à surmonter les épreuves, vous qui êtes chômeur longue durée depuis 13 ans? Non, en fait, je kiffe juste la chanteuse. Qu'est-ce que vous dit votre cerveau reptilien quand vous entendez « je veux mourir sur scène » Je sais pas. Est-ce que vous remettez en cause notre société de consommation égoïste qui a oublié toute notion de partage et d'empathie au profit du superflu quand vous entendez Dalida chanter la souffrance? Mais ça l'a pas fait. Nagui, il est sympa, mais faut pas déconner non plus. À demain.
Nagui, la bande originale.
J'ai vu la bande-annonce d'un autre film dans lequel vous allez jouer le 17 octobre prochain. Ça s'appelle Le Jeu. C'est un jeu super dangereux. C'est-à-dire que tous les portables sont posés sur la table et chacun, tout le monde voit les textos qui arrivent de tout le monde. C'est ça?
Voilà, c'est le jeu, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ça. En fait, dès qu'on reçoit un message, un mail ou une notification
De Facebook ou d'un réseau social,
on est censé l'ouvrir et le montrer à tout le monde.
Donc pas de secret pour les autres. A priori, mais...
Voilà, malheureusement. Parce qu'en fait, on a tous des choses à cacher.
Et dans la bande-annonce, parce que moi, je n'ai vu que la bande-annonce, à un moment donné, vous allez voir l'un des potes autour de la table, qui est celui qui est le plus tranquille, qui a zéro life et pas de texto, et vous lui demandez d'échanger le portable, parce que vous êtes marié et que vous recevez régulièrement des photos cochonnes le soir.
Voilà. Et comme lui, c'est ce que je crois, et c'est ce qu'on croit aussi dans la bande-annonce, il n'a rien à cacher, je lui propose d'échanger nos portables, Je veux pas spoiler, quoi.
Très bien. C'est un film avec Bérénice Bejo, Stéphane De Groot. C'est un film de Fred Cavaillet. Ça sortira le 17 octobre. Et votre film, Persona non grata, on en est où?
Je suis en fin de montage, là. J'ai fait une projection.
Au bout du rouleau, ça veut dire ou...
Non, au contraire. Au contraire, c'est un renouveau, là. Non, on a fait une projection avec le staff vendredi. Et je pense qu'on est arrivé à la fin du montage. Donc, on va pouvoir attaquer la musique, le son et le mixage.
C'est-à-dire que quand vous tournez un film, vous ne savez pas quelle sera la BO?
Moi, non. Mais il y en a qui le font. Mais j'attends de voir le film pour penser à la musique.
D'accord. C'est votre cinquième long métrage. Est-ce qu'il y a déjà une date? Il y a un calendrier? Vous savez que vous devez le livrer avant telle heure?
Non. Je fais un peu ce que je veux. non, mais c'est un film que j'ai produit avec Emmanuel Agnoret. Donc c'est tranquille, mais on sait déjà que ça sera pour le premier semestre 2019,
Ce sont deux hommes qui travaillent ensemble dans le bâtiment et qui ont rendez-vous avec un inconnu.
Voilà.
C'est ça?
À qui ils vont commander un meurtre. Voilà.
Point de suspension.
Ouais, voilà.
Donc une comédie,
Voilà. <c'est... rire> On rit beaucoup.
Des excuses à présenter, Daniel, cette
fois. Désolé pour tous les arbitres qui vont faire la saison à venir et se faire insulter par Roche Dizem. Il l'a expliqué, c'est pas contre vous, les gars, c'est par tradition pour sa tribune. Et le folklore, ça se respecte. Désolé pour Luc Besson, qui, selon nos informations, avait pensé à Roche Dizem pour un remake du Grand Bleu. Alors, Luc, d'après ce qu'on a compris, sur l'eau, ça va. Le reste, c'est un peu plus délicat. Désolé enfin pour Guillermo, qui, cette semaine, en plus de massacrer avec entrain et conviction les 4/5 de sa chronique, avec une allocution désastreuse, n'a même pas shooté un bon point à l'interrogation. C'est vrai, Luc Essibon.
C'est vrai.
Pour info, depuis la reprise, je suis premier avec 13 points, ne me félicitez pas. C'est aussi mon job, ça.
C'est vrai?
Ouais. C'est faux.
Il a fait toutes les émissions, c'est normal.
Mais non, je suis meilleur que toi.
Comment? Non, t'as dit, c'était là. Non, c'est vrai. Mais t'étais malade pendant une semaine en même temps.
C'est vrai.
Ça s'explique.
Mais tu as d'autres qualités.
Je m'en fais.
Merci, Roji.
Non, merci à vous.
Merci mille fois, ma fille. Au cinéma, ce mercredi 12 septembre.
Dodo.
Bravo, on a eu travail à dire.
Et Sophie Hunger, je le rappelle, en tournée en octobre. Demain, c'est Vincent Lacoste et William Lebguil qui seront nos invités. Bonne journée avec les carnets de campagne maintenant de Philippe Bertrand. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Nagui. Bonjour, les amis.
Salut.
Et qu'est-ce que j'entends? Luc Besson avait pensé à Roche Dizem pour le rôle du dauphin.
Il pense à Roche Dizem tout le temps.
Salut les amis.
Bonne émission.
À demain.
Ciao.